Activez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, sur les traces du prophète Abdelali Mamoun.
Sur les traces du prophète, nous marchons sur les traces du prophète tous les soirs de ce mois de Ramadan avec l'imam Abdelali Mamoun. Bonsoir, bienvenue à tous. Bonsoir imam Abdelali.
Bonsoir Philippe, salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh wa Ramadan Mubarak Karim. J'espère que vous êtes enfin acclimatés après ces quelques jours depuis qui ont débuté le Ramadan. Parce que c'est souvent les premiers jours que le corps a besoin d'adaptation pour supporter le jeûne et normalement ça devient après une routine. Alhamdoulilah.
On a commencé à évoquer les nourrices du prophète parce qu'elles sont plusieurs. Hein. La plus connue, évidemment, c'est Halima, mais ce n'a pas été la première, Imam Abdelali.
Effectivement, Thuwayba, la servante de Abu Lahab, est celle qui va être la première à l'allaiter. Et ça, peu de gens le savent. On parle souvent de Halima Sa'diya, donc Halima de la tribu des Bani Sa'd, issue de la grande tribu des rois d'Arabie, des Qais Aylan, qui sont les maîtres du pays et vont donc récupérer des enfants pour par des nourrices et donc allaiter les enfants des Kinana, puisque à l'époque quand même il y avait une relation d'alliance par le mariage et par l'allaitement, etc. Donc il y avait une fraternité qui régnait entre les Qais et les Kinaniens.
Et donc sa nourrice va l'emmener en fait, Imam Abdelali.
Oui, Halima Sa'diya, après 3 ou 4 mois de d'allaitement chez Thuwayba, c'est Halima Sa'diya qui prend la relève et qui emmène avec elle le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, son ânesse, elle a une ânesse qui est déjà fatiguée et qui d'un seul coup reprend de la vigueur. Elle devient d'une force et d'une puissance extraordinaire. Elle transporte Amina et son enfant, le prophète Mohammed, avec une force et une vigueur miraculeuses. Et ça, tout le monde s'en étonne. Les Mourdi'at, celles qui étaient venues avec Halima Sa'diya, qui depuis le début traînait derrière la caravane avec son ânesse, eh bien, la voit galoper devant eux, devant elle, et elle s'étonne de la vigueur et de la vivacité de son ânesse. Ensuite, quand elle lui donne le sein, son sein se met à gonfler et devient énorme, rempli de lait. Elle nourrit le prophète et même les autres enfants qu'elle avait sous sa charge de manière abondante. Et là, c'est ainsi que Allah Azza wa Jal va envoyer la baraka, c'est-à-dire la bénédiction sur la demeure de Halima Sa'diya, qui avait à l'époque autour de chez elle un territoire totalement aride, va devenir verdoyant et va permettre à ses animaux et ses chèvres, à toutes ces bêtes de, bien entendu, de se nourrir, de s'abreuver, l'eau va couler, ça va être l'abondance totale dans cette région aride qu'on appelle la Masakin, les villages occupés par les Bani Sa'd.
Mais alors pourquoi sa mère ne le garde pas ?
Eh bien, c'était une tradition. Il fallait que les notables, mécoises notamment, n'aient pas l'obligation de garder cet enfant et d'avoir la charge de parce que c'était une charge. Il y avait une responsabilité. Les mamans n'aimaient pas
Les enfants en bas âge.
Non, il n'est pas qu'ils les aimaient pas, les enfants en bas âge, mais ils n'aimaient pas s'en occuper. Ce sont des notables. N'oublie pas que je te parle de notables. Imaginons une sorte d'aristocratie qu'on a en Europe à l'époque, où il y a des duchesses, des barons, des marquises, etc., qui, quand elles donnent naissance à un bébé, ce sont les servantes, c'est-à-dire des nourrices à qui on chargé la responsabilité d'allaiter leur enfant et d'en prendre soin. Et elle venait simplement de temps en temps pour les câliner. Donc, sauf que là, ces nourrices-là, elles emportaient avec elles chez les Bani Sa'd les bébés et les Mécois. C'est ainsi que... Ah oui, il y a aussi une autre raison. C'est que les Mécois savaient que les régions des Bédouins, là où habitaient les Bédouins, il y avait une pureté de la langue arabe. C'est-à-dire que ces gens-là parlaient un arabe très littéraire, très soutenu, qui n'était pas entaché ou qui n'était pas on va dire souillée par des étrangers, puisque la Mecque, il faut pas oublier que c'est une zone, une région commerciale, un carrefour où viennent tous les gens du Cham, des Perses, de l'Afrique, etc. Se rejoignent dans ce carrefour de l'Arabie qu'on appelle la Mecque pour échanger leurs marchandises dans ce grand souk qu'on appelait le souk Oukad, qui se trouvait à l'extérieur de la Mecque, justement à la frontière avec le territoire de Qays Aylan. Donc Qays Aylan récupérait, et donc les Bani Saad, la branche de Qays, récupérait ces bébés pour s'assurer de leur transmettre la langue arabe d'origine, d'une pureté totale, donc un langage très soutenu, un arabe pur.
D'accord. Voilà. Le prophète va y rester combien de temps ?
Alors, d'abord, il est censé rester que 2 ans, puisque l'allaitement, c'est 2 ans. On sait qu'un bébé allait 2 ans.
C'est 24 mois, oui.
Voilà, 24 mois, c'est 2 ans. Donc, à partir de là, Halima Saadia, voyant l'abondance qui règne grâce à la présence du prophète, demande à sa mère de garder le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit, est-ce que tu me permets de le garder encore ? Et sa mère, elle dit, bon, bah vas-y, garde-le, puisque tu as envie de le garder, garde-le. Donc, elle va accepter de laisser le prophète encore quelques temps chez Halima Saadia. Sauf que là, le bébé, il n'allaite plus. Il mange de la nourriture, de la viande, il mange des légumes, donc il n'est plus au sein de sa mère. Et il grandit dans cet environnement où est-ce qu'il va notamment jouer un petit peu le rôle de berger et se promener dans les alentours de cette région qu'on appelle les Bani Saad, donc dans la région de Qays Aylan. Donc le prophète, qui s'émancipe dans cette région-là, un jour reçoit la visite de 3 hommes, 2 anges.
Avec... Il a quel âge ?
Il a 4 ans.
4 ans, d'accord.
Il a 4 ans, et c'est à ce moment-là que les autres enfants voient ces hommes arriver de je ne sais où, par le ciel, du ciel comme ça. Ils attrapent Mohammed, mais avec vigueur, ils l'allongent, ils le mettent sur un autel, c'est-à-dire une sorte de pierre plate, et ils prennent un couteau, ils lui ouvrent la poitrine, ils en sortent de son cœur une nukta saouda, c'est-à-dire une sorte de morceau de quelque chose de noir et d'impur, et il lave son cœur avec du zamzam, avec de l'eau de zamzam, et en un instant ils remettent leurs mains sur la poitrine et la poitrine se referme miraculeusement. Et là, les autres enfants sont effrayés de voir leur frère de lait se faire écorcher, se faire éventrer la poitrine. Et ils crient, ils courent, ils verrent vers leur maman. « Maman, maman, il y a des gens qui ont fait du mal à Mohammed. Vite, vite, il faut que tu viennes le sauver. » Les hommes arrivent et ils trouvent le prophète seul, un enfant tout seul dans le désert, avec une trace effectivement au niveau de la poitrine, et qui va être plus tard recouvert par un fil de cheveux, un fil de poils, qui va donc pousser à sa puberté, et qui va démarrer sous son menton, et qui va descendre jusqu'au nombril. C'est comme ça qu'était physiquement le torse du prophète. Il n'y avait pas de poils de manière abondante, sa poitrine n'était pas recouverte de poils, il avait juste un fil de poils qui commençait au niveau de son cou et qui descendait jusqu'au nombril. Voilà comment était la poitrine et le ventre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus tard après sa puberté.
Alors donc, qu'est-ce qu'ils ont dit ces hommes?
Ils ont eu peur, ils ont dit allez, il faut le ramener chez ses parents parce que là c'est pas possible, s'il lui arrive quelque chose on va nous le reprocher. Donc là Halima Saadia n'a pas d'autre choix que de le rendre à sa mère. Et il prend l'enfant et il le ramène à Mecca et il va le restituer à sa mère. Il va dire c'est bon, je veux plus le garder, j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose et après on me le reproche et que ça crée des soucis et des problèmes entre les tribus.
Mais est-ce qu'on sait qui étaient ces hommes ?
Ben on sait qu'on le saura puisque Hamza va interroger le prophète plus tard.
Ah oui, on
le sait. Il était présent lors de cet événement. Et là, le prophète dit non, c'était personne d'autre que Jibril, alayhi salam, l'archange Gabriel, qui est venu pour ce qu'on appelle purifier ma poitrine. Hein. Le Coran lui-même le révèle. Il dit Alam nashrah laka sadrak. Nous t'avons pas purifié ton, on va dire, nettoyé et purifié ta poitrine. Alam nashrah laka sadrak, c'est justement la sourate Inshirah qui correspond à le rappel de Dieu à son prophète qui dans lequel il lui a purifié son cœur. Alors donc Dieu le rappelle à son prophète, c'est-à-dire que Dieu l'a fait avant même que le prophète lui demande. Alors que Moïse avant avait demandé à Dieu qu'il lui purifie son cœur avant qu'il le fasse. Il dira Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. C'est Moïse qui parle à Dieu et qui implore son Seigneur de lui purifier son cœur et sa poitrine. Alors que le prophète n'a pas eu besoin de le demander, Dieu l'a fait avant même qu'il le demande. Et ça, c'est la preuve du statut supérieur qu'avait Mohammed alayhi salat wa salam par rapport aux autres prophètes qui l'ont précédé. Alors, c'est justement le fait que Dieu n'a même pas, il n'a même pas eu besoin de demander à Dieu.
Il a 4 ans, donc il retourne chez sa mère.
Enfin, il jouit de la tendresse de sa mère. Il a 4 ans, effectivement. Effectivement, parce qu'il est en manque d'affection. Bon, Halima, c'est certes lui combler ses besoins, mais il n'y a pas mieux que sa propre mère pour faire cela. Et donc, Amina va le garder pendant 2 ans. Sauf que Amina, elle-même, va rendre visite à Médine 2 ans après pour aller rendre visite à la tombe de son mari. Chez les Bani Najjar. En arrivant à Abwa, un quartier extérieur dans la banlieue de Médine, et elle va tomber malade et mourir là-bas, tout simplement, elle aussi à Médine. Donc c'est
le prophète un signe. Est doublement orphelin.
Il est doublement orphelin. Il perd son père avant sa naissance et il perd sa mère 6 ans après sa naissance. Et justement au même endroit où est-ce que dans la même ville, du moins à Médine, et ça, bien entendu, c'est un signe que c'est dans cette ville-là que le prophète trouvera refuge plus tard pour pouvoir propager l'islam après l'immigration.
Qu'est-ce qu'on sait de ces années qui ont suivi? Est-ce qu'il est gagné par la tristesse? Qui c'est qui va le prendre en charge?
Alors, c'est Abdul Muttalib, son grand-père, bien entendu, c'est le chef de la tribu des Bani Hashim. Qui va le prendre en charge.
Il est âgé, son grand-père.
Il est très âgé, il est vieux, effectivement, certes, mais il va reconnaître et voir en prophète déjà des signes de grandeur. Par exemple, un jour, alors qu'il n'a que 7-8 ans à peine, le prophète vient s'asseoir sur la chaise réservée à Abdul Muttalib, c'est-à-dire une sorte de trône, une place dans laquelle seul Abdul Muttalib, le grand-père, le maître des notables de la Mecque, a le droit de s'asseoir. Et là, les autres membres de la famille, etc., qui entourent Abdul Muttalib, vont essayer de tirer et de retirer le prophète de la place d'Abdul Muttalib, parce qu'il était gamin, il ne s'en rend pas compte, il ne sait pas ce qu'il fait. Et là, Abdul Muttalib veut dire « laissez-le, car un jour cet homme, cet enfant aura... » il aura une affaire immense, il aura un statut immense. Je sens en lui qu'un jour il deviendra un personnage important. Voilà ce
donc,
que dira.
Donc le grand-père savait.
Savait, il avait déjà l'intuition.
Ouais.
Et il pensait, il espérait pouvoir que grandir et que, mais malheureusement, à son âge avancé, ses espoirs étaient très limités. Donc effectivement, à l'âge de 8 ans, quand le prophète a 8 ans, Abdul Muttalib, son grand-père, décède, il meurt. Et bien entendu, c'est le fils aîné de la grande tribu des Bani Hashim, des fils aînés de Abdul Muttalib, qui prend la relève et met sous son aile le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Abu Talib.
Bien, on continue cette histoire demain. Vous réécouterez cet épisode en podcast sur beurrefm.net. Et si vous avez des questions à poser à l'imam Abdelali Mamoun, dans un instant, c'est Allô l'imam. Vous nous appelez au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan Enko revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enko avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enko avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Ramadan Enko sur Beurre FM. Pendant 30 jours, nous sommes avec vous. Nous vous donnons rendez-vous à partir de 17h. On a failli pas avoir l'imam Mamoun ce soir.
Comment ça? J'étais là, moi.
T'arrives en courant, imam.
Ah non, j'étais là dès le début.
C'est vous étiez là en train de discuter avec Kim.
Oui, parce que c'est mon copain, Kim. J'aime beaucoup.
Ouais.
Voilà. Je crois aussi que c'est ton copain. C'est le copain de tout le monde, Kim. C'est le copain. Je sais pas qui, il peut pas être copain, Kim. Il est tellement adorable. On peut pas ne pas l'aimer.
Et on papote. Et après, on oublie qu'on a une émission à faire. Voilà, c'est ça. L'imam Abdelali.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Ramadan Moubarak Karim à tous, Inch'Allah. On a commencé à prendre le rythme, là. C'est bon, là. On est bien parti, là.
J'ai un copain qui dit petit le ramadan, on se souvient du premier jour et après, c'est comme un TGV. Mais faut pas s'habituer au rythme. Hein. Ousmane a raison, hein, parce que si on s'habitue au rythme, ça devient
une coutume,
on banalise. Alors que finalement, c'est justement ce rythme.
Par contre, c'est lui qui est pas là ce soir.
Mais il arrive.
Ah d'accord.
Il arrive. Il cherche un vélo. Oui, il cherche à garer son vélo, je pense. Mais c'est vrai que sinon.
Mais par contre, ce soir, j'étais avant toi ici. Ça, et largement.
Oui, largement avant vous. Mm-hmm. Si vous êtes sage, ce soir, vous aurez un tour thaïlandais.
Eh ben, j'ai de la chance. Franchement, ouais. Bravo.
Mais ça, c'est si vous êtes sage.
Charles,
vous connaissez la première partie de l'émission.
J'aime bien Thaï.
C'est vrai ?
Oui. J'aimais pas trop, mais là, j'ai été au Bokoum. C'est ça le Bokoum, il s'appelle ?
Non.
Celui qui est à Ivry-sur-Seine, ouais. Thaïlandais, superbe.
Ouais.
Moi, je le recommande.
C'est lui qui va nous livrer ce soir.
Ah ouais, c'est lui ? Ah bah c'est ouais. Parfait alors.
C'est lui qui va nous livrer ce soir. Bon, alors 01 53 48 3000. Dans un premier temps, vous posez toutes vos questions à l'imam Abdelali Mamoun. 01 53 48 3000. Et nous avons Nadjet. Nadjet qui nous appelle du Val d'Oise. Bienvenue, bonsoir et bon ramadan, Nadjet.
Salam alaikum à tous et bon ramadan à tous. J'ai une question, s'il vous plaît, concernant. J'ai deux enfants qui sont en âge de jeûner, mais qui sont malades, qui sont atteints de diabète du type 1. Et d'accord. Donc, ils sont insulinodépendants. Ils ont parfois des pics d'hyperglycémie et parfois des pics d'hypoglycémie. Alors, forcément, comme ils sont un peu jeunes et que je m'inquiète pour leur santé actuellement.
Ils ont quel âge?
Alors, le plus âgé a 13 ans, pardon, il va avoir 14 ans. Et le plus jeune a 11 ans.
11 ans, d'accord.
Voilà. Donc, alors, ils ne jeûnent pas actuellement. Et j'aimerais savoir quelle est mon obligation en tant que parent vis-à-vis de mes enfants. Est-ce que je dois payer quoi que ce soit ou je ne sais pas.
Est-ce qu'ils sont pas encore, ils sont pas encore pubères, les enfants?
Si, le plus grand, il est
pubère. Il est pubère, d'accord. Alors, ça sera pour lui, hein. Pour le petit, non. Mais pour le grand, si vous pouvez vous acquitter de la fidia, à sa place, c'est bien. Si vous ne pouvez pas, tant pis.
D'accord. Et quel est le montant ?
Voilà, c'est à partir de 2 euros jusqu'à 5, 6, 7 euros par jour non jeûné. C'est l'équivalent d'un repas. Vous voyez comment vous considérez-vous un repas ?
D'accord, ok. Et ça, c'est... Au quotidien, on doit le rassembler à la fin du ramadan et...
C'est comme vous voulez. C'est soit jour par jour, soit en une seule fois. Et on n'est pas obligé d'attendre la fin du ramadan. Vous pouvez faire ça durant le ramadan, n'importe quand. N'importe quand.
D'accord.
Okay. Si vous savez, bien entendu, qu'il ne va pas jeûner aucun jour. On est bien d'accord.
Oui, c'est ça. Et que je ne sais pas, peut-être qu'il va essayer de jeûner certains jours, il sera sur ma surveillance, mais...
Alors, attendez, à ce moment-là. Si, effectivement, vous dites que, comme ça, vous pourrez être sûr de savoir combien de jours il a jeûné, combien de jours il n'a pas jeûné, c'est sur les jours non jeûnés que vous allez vous acquitter de la fidia. Ou pourquoi pas attendre en hiver, si les journées sont très courtes, hein, au mois de décembre, s'il peut rattraper un jour par-ci, un jour par-là. Pourquoi pas ? S'il peut jeûner, je dis bien s'il peut. S'il peut pas, vous versez la fidia. Si vous ne pouvez pas verser la fidia, vous ne versez rien. Voilà. La religion, d'accord. Elle est très souple.
Ok, d'accord. Bah, écoutez, je vous remercie.
Je vous en prie, ma sœur. Qu'Allah vous facilite.
Bon ramadan.
À vous aussi, ma sœur.
Merci, Nadjet. Yamina est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Yamina.
Merci beaucoup. Bonsoir.
Bonsoir. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam.
C'est gentil, merci. Moi, j'ai une question. Je suis une grosse, grosse asthmatique. Je la pose quasiment chaque année. Mais chaque année, je la pose parce que chaque année, j'augmente d'un cran dans l'incapacité de respirer, en fait. Et je suis dans l'obligation de mettre ma symbicorte. J'ai dépassé.
Excusez-moi, vous êtes obligée de mettre quoi ?
La symbicorte de traitement. Symbicorte, c'est une inhalation que je fais.
Ah, d'accord, un inhalateur. D'accord.
Oui.
C'est un inhalateur du genre pour asthmatique, là ?
Oui, je suis une grosse asthmatique.
D'accord.
D'accord. Donc, je voulais juste m'assurer, est-ce que malgré que je le fais le jeûne quand même, et je fais ma salicorde, je fais mon traitement, quand même, il passe.
Oui, il n'y a pas de problème. L'inhalateur de l'asthme, étant donné que c'est que quelque chose de volatile, c'est volatile,
oui.
Ça n'annule pas le jeûne. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas le prendre que seulement en cas de besoin. C'est-à-dire, il ne faut pas s'amuser toute la journée à s'envoyer tout ça.
En cas de besoin. Mmh. Oui, au cas de
en cas de besoin. Votre jeûne est valable. Allah yitqabbal yurti.
Une dernière chose, s'il vous plaît. Tout le monde sur le plateau, prie pour moi que je trouve un travail, s'il vous plaît. Je suis dans le besoin et j'ai vraiment envie d'un travail.
Allah yisahal alaik, ma soeur. Qu'Allah vous facilite.
Allah,
on peut passer le message à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Hein. Bah, si vous nous écoutez,
vous avez... s'il vous plaît, oui.
Vous habitez où, madame?
J'habite ici, Créteil.
À Créteil?
Oui.
D'accord, d'accord.
Alors attendez, parce que Yamina, si vous dites que vous cherchez un travail, mais dans l'idéal, qu'est-ce que vous avez déjà exercé comme profession? Qu'est-ce que vous avez déjà fait?
J'ai fait un peu de tout. J'étais agent de sûreté aéroportuaire. J'ai fait avec les handicaps. J'ai fait APNR.
Madame, est-ce que vous avez un stylo? Vous avez un stylo?
Oui, je l'ai.
Allez-y, prenez, notez.
D'accord,
prenez. Alors, vous notez, c'est Fadela, 06-15-31. Dépêchez-vous.
Oui, d'accord.
06 15 31.
06
15 31.
Oui.
53 35.
53.
Voilà, c'est responsable d'agence d'intérim.
Attendez,
06 15 31 53 35.
C'est tellement, je pleure toute la journée. J'ai peur qu'on me fasse sortir de la maison et ma fille et moi.
Madame, on ne peut pas s'éterniser. Déjà, appelez-la. Nous, on est là pour trouver des solutions, pas pour évoquer les problèmes. Le problème, il est clair. Maintenant, il faut une solution. Appelez Fadela de ma part. Vous dites, c'est l'imam de la radio Beurre FM qui m'a donné. Donc, elle est responsable d'une agence d'intérim pas très loin.
D'accord. Juste priez pour moi, s'il vous plaît, tout le monde. Ne m'oubliez pas avec les prières, s'il vous plaît.
Allah, inshallah, yisahal alaykum. Allah,
on est toutes seules, toutes les deux. Franchement, on ne passe pas à malgré que ça fait plus de 25 ans que je suis là, les gens, quand elle n'a pas les parents, c'est très.
Allahumma yassir, Allahumma yassir.
Amen.
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم آمين. اللهم آمين. Merci beaucoup.
Allez, je vous en prie, ma sœur. Salam alaykum.
Yamina. Alors Ismaël est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon Ramadan, Ismaël.
C'est Isman. Salam alaykum.
Isman.
Ismahan.
Voilà, salam alaikum.
Enchanté, Ismaël.
Enchanté, Saharum Dankum.
Marhaban, yatek Saharti. Il ne connaît pas, Philippe, le prénom Ismahan.
Ah non, si. C'est pas, si je connais, mais sur ma fiche, il y a écrit Ismaël. Ah, mais après, mais je vous remercie de me taxer de connaissances.
Non, mais il faut mais Ismahan.
Jusqu'à Ismahan, je connais.
Voilà, ce n'est pas un nom très, très réputé, c'est vrai.
Si.
Si, il connaît Ismahan.
Oui.
Si, bah, je veux dire. Oui. En tout cas, Foudail.
C'est plus réputé qu'Abdelali.
Ou peut-être,
ah oui.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est faut pas comparer.
Bon, Isman, on va écouter votre question.
Isman, allez-y.
Voilà, moi, ce n'est pas une question exacte que j'ai, mais j'ai... ce n'est pas un problème, c'est ça va. Vous savez, avant, quand il y a le Ramadan, quand on a des fêtes, tout ça, c'était pas facile. Mais là, avec tout, qu'est-ce qu'on entend le premier jour de Ramadan, il faut faire ce doha, il faut faire cette prière, il faut faire ça. Et après, le lendemain... Et après, dans ma tête, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs à faire que je ne le fais pas. Et après, je suis fatiguée et j'ai l'impression que j'ai une boule. Que je n'arrête pas à faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et franchement, chaque fois, ça m'arrive ça parce que quand on regarde les vidéos, les chaînes de Coran et tout ça, il faut faire ça. L'imam il dit il faut faire ça le jour de le premier jour de Ramadan, il ne faut pas oublier ce doha.
Attendez, qui c'est qui vous a dit qu'il y a un truc à faire le premier jour et le deuxième jour? Non, il n'y a pas de chose spécifique premier jour, deuxième jour, troisième jour. Hein, c'est pas vrai. Il y a un encouragement à augmenter un petit peu ces efforts qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire rajouter un petit peu par rapport à ce qu'on fait. Bon, il y a déjà le jeûne, il y a les prières de Tarawih. Si déjà vous et puis les prières à l'heure. Hein, si vous arrivez à vous tenir à ça. Prière à l'heure et ce jeûne obligatoire ainsi que ces prières de la nuit, salat al-tarawih, c'est déjà mashallah. Mais faut pas trop vous imposer un rythme trop difficile.
Faut pas se mettre la pression.
Voilà, il faut pas avoir un comportement de sprinter. Il faut être marathonien. Voilà. Ouais. Il faut être dans le temps, courant dans la distance. Khairul umuri adwamuha wa in qallat. وإن كانت قليلة أفضل عبادة هو ما داوم عليه العبد. C'est les pratiques qui sont pérennes et continuelles. C'est ça là qu'il faut essayer de travailler pour que après le Ramadan vous soyez dans cet effort continuel et perdurer dans votre pratique, inshallah. D'accord. Donc il faut pas vous imposer quelque chose de trop difficile et surtout faut pas les faire au détriment des choses obligatoires dans votre vie. Et je parle pas que seulement de le religieux, hein, que de la prière. Aussi, par exemple, il y a des gens, ils vont faire des prières la nuit sur érogatoire, mais le matin, ils vont pas assurer au niveau du travail parce qu'ils seront fatigués. Non, on doit pas faire ça au détriment de son travail, par exemple.
Merci pour votre question. Alors, nous avons Ahmed qui est avec nous. Ahmed à Pontoise. Ahmed, bonsoir et bienvenue et bon ramadan. Oui.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Ahmed, salam alaykoum frère.
Alors Ahmed, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, je veux bien que vous l'enleviez.
Et parlez plus fort pour qu'on vous entende bien.
J'ai pas le kit. Hein. Bon. Vous m'entendez là ?
Ah, allez, on vous entend. Allez, on y va, Ahmed.
C'est bon ?
C'est bon.
On y va.
Donc, je voulais poser une question. Le pass nicotine de l'environnement, c'est interdit ou c'est haram ?
Non, ça annule pas le jeûne. Tu peux prendre le patch nicotine.
Le patch nicotine
n'est pas interdit. Vas-y.
Il ne faut pas le manger.
Non, bah, le patch, il le met sur la peau. Ouais, on est d'accord. Donc, tout ce qui est intraveineux, intramusculaire, tout ça, là, tout ce qui se met par la peau et qui n'est pas nutritif, voilà, qui n'est pas nutritif. Voilà, merci Philippe de trouver le suffixe parce que c'est difficile des fois. Donc là, ça annule pas. Donc, ça annule pas le jeûne. Par contre, c'est les piqûres d'aliments, de vitamines, tout ça, ça annule.
Je suis revenu les deux premiers jours de Ramadan. Il y a plusieurs mawaqit l'imsak. On a peut-être l'imsak, l'application de mawaqit.
Ouais, d'accord.
Elle est valable ou pas?
Alors, je connais pas trop les mawaqit, mais l'important c'est de s'assurer d'arrêter de manger à l'heure de l'fajr, et non pas l'imsak, c'est l'fajr, hein. On peut manger jusqu'à l'fajr. D'accord? Et si, il y a deux calendriers aujourd'hui qui sont répandus en France, c'est celui de la mosquée de Paris et celui des critères, ceux de musulmans de France. Donc que tu suis l'un ou l'autre, c'est valable. D'accord?
Voilà, Ahmed, ce qu'on pouvait vous dire, la suite de vos questions dans un instant. Allô l'imam au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et Ousmane Timéra qui vient d'arriver. Bonsoir et bienvenue Ousmane.
Oui, bonsoir, que la paix soit sur vous. Il fait super beau, alhamdoulilah, faut en profiter.
Il faut faire du vélo.
Il faut faire du vélo, j'en ai fait là et... Bref...
Bien.
Ça fait du bien.
Ça fait du bien, exactement.
Il est en sueur, le
pauvre. Ah ouais, je suis en sueur de ouf, là. Mais avec ça.
Il a laissé un kilo derrière ça.
Je sais pas. Avec ça, bah, Dulciné sera contente.
Il y aura les abdos.
Les tablettes de chocolat
sont revenus. Les tablettes de chocolat, c'est ça.
Il y aura peut-être plus de mollets que d'abdos. Hein,
les triceps et les quadriceps.
Aussi, mais après, je me fais une petite séance de sport tous les soirs, donc tout ça, c'est bien, ça va s'équilibrer, Inch'Allah.
Allez, Farah est avec nous. Farah est à Montpellier au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Farah.
Oui, bonsoir, c'est Farah, c'est pas Farah.
Sarah,
avec un S.
Oui, avec un S, oui.
D'accord. Bah, les deux sont des noms arabes, Farah et Sarah. Oui, donc, effectivement, Farah. Les deux
en
existent.
En plus, c'est Farah avec un H à la fin.
Ah, c'est Sarah?
Oui.
Avec un
H. En arabe, c'est avec Ra, Elif, Ha.
Mais بالعربي تنطق صراح ولا سارة؟
Oui, صراح. 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 Alif ha.
Ah, parce que ممكن هذاك le h il peut se prononcer ha. صراح. صراح. بالتاء المربوطة في النهاية بمعنى التي تسر الناس بالسرور. Donc qui est source de joie et de bonheur. Oui, c'est bien. Bon, à la كل حال. C'était le nom de l'épouse de Ibrahim alayhi salam, prophète Abraham. Que j'ai visité, visité au mausolée des patriarches à Hébron, Khalil, Madinat Khalil, en Palestine. Mm-hmm. Okay. Ayo, mashallah.
Bon.
Fadal Yurti, soualak.
J'ai une question. Là, ça fait 2 ans que je ne gêne pas. Et j'ai un problème de santé.
Mm-hmm.
C'est le médecin qui m'a interdit de faire Ramadan. Mm-hmm. Je suis jeune, hein, mais il m'interdit de le faire.
Ok, allez-y. Soyez bref, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions, ma sœur.
Oui, du coup, l'année dernière, j'ai donné l'argent, en fait, parce qu'il faut nourrir quelqu'un ou donner de l'argent à quelqu'un, c'est ça ?
De l'argent pour qu'il puisse se nourrir avec. Hein, l'objectif, le prophète, le Coran qui nous dit « Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin », c'est cette fameuse fidya qui est soit en nature, soit en argent pour acheter de la nourriture avec.
Mm-hmm. J'ai une question, parce que cette année, il y a mon frère chez moi.
Allez-y, vite, ma soeur.
Mais cette année, il y a mon frère avec moi à la maison. Mm-hmm. Du coup, il n'a pas de papier, il ne travaille pas en ce moment. Je nourris, c'est moi qui achète la nourriture. Mm-hmm. Est-ce que je suis obligée de la ressortir pour le donner à quelqu'un d'autre ou...
Vous pouvez la donner à votre frère, c'est ça que vous voulez me dire?
Soit je le donne, soit il suffit juste d'acheter la nourriture et d'assumer en fait.
Oui, vous allez me dire, oui, c'est valable, c'est tout à fait valable. Puisque, akhouk, laysa mimman yajibu alayki nafaqatuhu. Il ne fait pas partie des gens qui sont en principe sous votre charge dans la religion. Contrairement à vos parents ou à vos enfants qui sont normalement, vous avez un devoir de solidarité d'entretien. Votre frère n'en fait pas partie, ne fait pas partie de la liste de ces gens-là. Donc, à partir du moment où vous versez la fidya à votre frère, vous faites une sadaqa à votre frère, vous le nourrissez, c'est tout à fait valable, vous n'avez rien d'autre à faire. Allah y sahel. Wa rabbi iqbal ja'ala fi mizan hasanat
ukhti. Merci beaucoup, imam, merci.
Ahlan bik, ahlan bik.
Donc vous voulez dire que ce qu'elle donne habituellement à son frère comme nourriture, elle met la niya, que c'est une sadaqa.
Que c'est une fidya pendant le ramadan parce qu'elle ne jeûne pas. Et dans le reste de l'année, c'est une sadaqa, bien sûr. Tatasaddaqu ala akhiha al-faqir.
D'accord.
Parce que akhuha faqir fa huwa awla bin nafaqa wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'd. Ar-rahim awla bis sadaqa. Avant de donner à des gens loin que vous connaissez pas, voyez d'abord dans vos entourages s'il y a des gens pauvres. Si moi j'ai mon frère ou un cousin, un oncle ou un, je sais pas moi, quelqu'un de proche qui est dans le besoin, au lieu d'aller donner à je ne sais qui, je vais d'abord donner à eux, c'est normal, forcément.
Alors, Soraya est avec nous au 01 53 48 3000. Bonsoir, bienvenue et bon ramadan, Soraya.
Je crois que c'était Karima qui était avec nous.
Dans un instant, elle sera là.
Bon ramadan à tout le monde.
Bon ramadan, Marhaban, Soraya.
Voilà, j'ai une petite question. Je suis divorcée. J'ai rencontré, après mon divorce, un jeune homme musulman comme moi. Et j'ai refusé quoi que ce soit tant qu'il n'y avait pas un halal. Donc, on est resté en contact, en restaurant, boire des verres, mais pas plus. Cette personne a refusé de faire un halal en me disant que c'était complètement ridicule, qu'on était en 2024 et que attendre qu'il y ait un contact physique pour avoir un halal et compagnie, que c'était archaïque en fait et que j'étais complètement. Et
vous avez dit qu'il est musulman ?
Pratiquement.
C'est ce qu'il se dit musulman, oui.
Ben madame, s'il se dit musulman, ça veut dire qu'il se soumet à ce que dit le Coran et la Sunna.
Normalement, oui.
Bon, Dieu dans le Coran, il dit wala taqrabuz zina. Qu'est-ce qu'il en fait de ce verset? N'approchez pas la fornication. Qu'est-ce qu'il en fait de ce verset?
Ah ben, pour lui, c'est archaïque.
Donc c'est le Coran qui est archaïque, donc. Il faudra savoir. Il a le droit de dire que c'est archaïque, mais il ne peut pas dire que c'est un musulman et en même temps dire que le Coran, il est archaïque. Là, c'est de l'hérésie. Il tombe dans l'hérésie.
Voilà, bon ben j'ai tout annulé.
Donc c'est ça votre question, ma sœur, ou il y a autre chose?
Non, c'est ça ma question, c'était de savoir si j'étais dans le.
Vous avez bien fait de refuser. Normalement, d'accord. Effectivement, une femme ou un homme ne peut pas avoir des relations hors mariage. En islam, on doit se marier pour consommer et pour pouvoir avoir des rapports avec une femme. Si on l'aime, et c'est pour la vie. On donne pas son corps comme ça. Parce que de toute façon, ce genre d'individu, vous êtes sûr que c'est un aventurier qui, après avoir profité de vous, il va vous jeter comme un chiffon. Ça, c'est certain. En général, ça finit comme ça.
Alors, Louisa est avec nous au 01 53 48 3000. Louisa, bienvenue et bon ramadan.
Oui, bon ramadan à vous. Salam
alaikum, cher. Oui, wa alaikum salam. À tout le plateau, là. On a beaucoup de monde autour du plateau.
À tout le monde. Ramadan Mubarak.
Voilà, Allah yabarak. Inch'Allah.
Imam, voilà, je voudrais une question, s'il vous plaît. Et il y a mon fils qui vous écoute, qui me contrariait tout à l'heure. Donc, il rentre de l'école. Je lui ai dit, va faire l'Asr. Il m'a dit, non, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Je lui ai dit, tu l'as fait à quelle heure? Il m'a dit, je l'ai fait à 13h. Je lui ai dit, mais à 13h. c'est Zohr et l'Asr. Tu as le temps, là, tu rentres à 5 heures, tu peux faire. Il m'a dit non. J'ai entendu un imam qui a dit qu'on peut regrouper Salat. Imam, s'il vous plaît, répondez-lui.
Alors, il est possible de regrouper les prières sans raison, puisqu'il y a un hadith dans le Muslim, Sahih Muslim, qui dit que le prophète a prié 8 et 7, c'est-à-dire qu'il a prié Ad-Dohr avec l'Asr en les regroupant 4 et 4, ça fait 8, et le Maghrib et l'Aïcha 3 et 4 le soir, sans min ghayri udhrin wala safar. Mais c'est à titre exceptionnel, c'est-à-dire que c'était rare qu'il faisait ça. Habituellement, chaque prière, il la faisait à l'heure. Nous donnons cette dérogation pour celui qui n'a pas le temps, par exemple qui est au travail et qui sait qu'il ne va pas rentrer avant le Maghreb. On goulou la jma' ad-dhuhr al-'asr dans la journée avant le coucher du soleil, parce que tu sais que tu vas rentrer après le Maghreb, tajma'hum, allez, tu peux regrouper à ce moment-là tes prières dans la journée, dhuhr al-'asr. Mais lui, puisqu'il arrive avant le Maghreb, c'est-à-dire qu'il est encore dans la plage horaire de l'Asr, pourquoi il avance l'heure de l'Asr avant l'heure? Il n'a pas besoin de faire ça. Donc vous avez raison, c'est vous qui avez raison.
Il a quel âge? Votre fils?
C'est un adolescent.
Il a quel âge le...
Quel âge il a, votre fils?
Il a 15 ans.
15 ans, c'est un ado. Voilà. Donc, Ma'alech, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est pas grave. Mais il faut pas qu'il fasse ça de manière habituelle. Le prophète, il faisait pas ça. On sait qu'il l'a fait, et quand on l'a interrogé, et qu'on lui a dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu as fait ça comme ça? Qala aradtu an la uhrija ummati. Je n'ai pas voulu rendre la vie difficile à ma communauté. Donc il est en train de nous dire quoi? C'est qu'il y a une dérogation, il y a une soupape, il y a une souplesse dans la religion qui, de temps en temps, t'autorise à regrouper quand tu n'as pas d'autre choix et que tu as des activités qui t'empêchent de faire les prières à l'heure. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas le cas. Il pouvait rentrer à la maison et prier l'Asr, puisqu'il arrive de l'école avant le Maghreb.
Voilà, Louisa. Voilà. À 18h, nous retrouverons Kamel Chekat pour sa chronique Les contradictions supposées.
Une petite dédicace, moi pour Sid Ali de Saint-Denis, se reconnaîtra. Et Bilal, mon voisin. Voilà.
01 53 48 3000. Allô, l'imam sur Beurre FM.
Ramadan Enco revient dans un instant.
Suivez Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
17h-20h. Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Voilà, et la spécialiste de vos ados est là, Karima Chalibaou nous a rejoint. Bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bonjour à tout le monde.
Bon,
bonjour
Ramadan.
À tout plateau. Ramadan Karim, Moubarak, Inch'Allah.
Vous avez illuminé votre soirée, Karima.
Oui, merci, ben vous avez illuminé la mienne aussi.
Bien. Alors, nous avons Hicham qui est avec nous au 01 53 48 3000. Hicham, bienvenue.
Marhaban ya Hicham.
Hicham. Alors, Hicham, si vous ne répondez pas, on va passer à Fahima.
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 Oui, salam alaykoum.
Wa alaykoum salam.
Faham, d'accord.
Bon, on n'a rien besoin de lui expliquer, elle. Hein. Elle s'appelle Fahima. Ça veut dire celle qui a tout compris. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Fahma, Fahma.
On essaie, on essaie.
Inch'Allah. Allah y fahmna, Inch'Allah.
Amin.
Tfadda, l'Irti, c'est quoi votre question?
Imam Sahid, barakallahu fikoum. Moi, j'ai une question qui est en relation avec le mois de Ramadan.
Mm-hmm.
J'ai entamé une formation cette semaine pour faire accompagnement éducatif et social. Et demain, j'ai un PD où on doit apprendre les gestes pour porter et tout ça. Donc, je crains que le formateur me demande de le faire avec un homme. Je ne sais pas, est-ce que je dois rattraper après ma journée ou...
Vous devez faire quoi avec cet homme?
Ben, c'est... Vous voyez, on serait amené à travailler dans des EHPAD, donc si on veut soulever une personne, la déplacer, tout ça. Donc,
et toutes ces personnes qui font assistance de vie pendant le Ramadan, il n'est pas valable.
Non, je vous pose la question.
Non, mais je vous réponds. Au contraire, madame, d'accord. L'assistance de vie, ceux qui travaillent avec les personnes âgées et qui les aident, que ce soit des hommes ou des femmes, ils le font dans un cadre sanitaire et médical. Donc il y a bien entendu dérogation. Vous êtes tout à fait autorisé à le faire, et ce n'a au contraire, non seulement ça annule pas votre jeûne, mais vous êtes récompensé. Rabbel alamin yatik al-ajr, parce que vous avez soulagé la souffrance d'une personne.
Oui,
c'est pas ça. Vous vous rendez compte, la personne âgée qui a besoin d'aller aux toilettes et qui est obligée d'attendre. Tu le poses sur la selle et tout ça, et vous le lavez, vous le nettoyez, tout ça. Vous imaginez même pas la récompense que vous avez aux yeux d'Allah. Mais c'est immense, c'est gigantesque. Arrêtez de penser que ce que vous faites, c'est pas bien. C'est au contraire
non,
un bien.
En fait,
bon, alors si c'est bien, pourquoi vous pensez que votre jeûne, il est pas bon?
Parce Non, non, c'est que je suis en formation. Genre, je vais pas le faire avec un vieux, donc je vais faire sûrement avec un.
Mais
un
camarade. C'est pareil, mais c'est pareil, okay, ma sœur. Vous le faites okay. pour demain le faire à des personnes dans le besoin, on est bien d'accord?
Oui.
Pour exercer la fonction.
Parce
après.
Que madame, sans doute, part oui. du principe que le fait qu'elle soit une femme et qu'elle touche un homme.
Voilà. Qui n'est pas un mahram.
Et dans la fleur de l'âge et qui n'est pas un mahram.
Elle pense que c'est
annuler son
n'importe quoi. Non, non, pas ses ablutions. Elle parle de son jeûne, ramadan. Son ramadan. Non, la réponse est non, bien sûr. Non, ça annule pas votre jeûne.
Ça fait pas partie des choses qui annulent le jeûne. En plus,
les choses qui annulent le jeûne, on sait, c'est tout ce qui va passer par la gorge. Ou les rapports, voilà, c'est ça qui annule le jeûne. Tout ce qui passe par la gorge, tout ce qui rentre par la gorge, ça annule le jeûne. Tout ce qui rentre par les oreilles, les yeux, les parties intimes, tout ça, ça annule pas le jeûne. Et tout ce qui est touché, il y a que le rapport intime, la pénétration, c'est-à-dire le rapport intime avec son mari ou voilà, ou avec qui que ce soit, vous allez me dire, ça annule le jeûne. Ça va annuler le jeûne.
Mais sinon, mari, non, mais vous avez raison de préciser.
Avec son mari, c'est mieux. Ouais, mais parce qu'ils vont croire. Il m'a dit l'imam, il a dit avec le mari, mais pas avec les autres. Non, non, avec tout le monde. Les rapports pendant la journée du Ramadan, la ilaqat al-zawjiya ou la ilaqat al-jinsiya umuman fi nahar Ramadan yufattir taban wa alay al-kafara. Il a en plus l'expiation. Il y a l'expiation qui s'ajoute à cet acte-là, qui est de jeûner 60 jours ou de faire un don de 60 repas à des pauvres.
Bien, on a dit pas
ou de libérer un esclave.
Bon, ça, c'est fini, Philippe.
Ah, oh, il y en a encore dans certains pays.
On va franchir à l'esclave, ça existe encore.
Il y en a encore aujourd'hui.
Alors d'accord, on va franchir à l'esclave.
C'est la Ousmane touch.
Yeah. Ah, oui, d'accord.
Sortez les gens du salariat. Et là, vous les allez sortir de l'esclavage.
18h, on retrouve Kamel Chekat, chercheur en théologie, membre fondateur des oulémas du Sahel, pour sa chronique contradiction supposée du Coran. Bonsoir et bienvenue, Kamel.
Bonsoir,
salam alaikum. Bonsoir, Kamel. Bonsoir, Kamel. Akid lahu ta'liq fima kunna natahaddat anhu, la?
Comment?
Ima andek ta'liq?
Hel huwa samia?
Samia, na'am. Samia. Il était là depuis quelques minutes, non? Il est avec nous depuis quelques minutes.
Hal istama'ta ilayna indama tahaddathna 'an ar-riq?
Non, pas de remarque.
Wa tahriru raqaba hatta fi hadha al-yawm.
Il va certainement l'évoquer dans le mois du Ramadan, cette question de l'esclavage qui est un peu en contradiction avec les valeurs soi-disant qu'on nous
un
dit.
Peu, c'est un euphémisme, mais
ouais,
bon.
C'est vrai, c'est vrai. Tfadal, Estadna, c'est à toi la parole. Marhaban.
Concernant cette question même ou ma rubrique?
Non, votre rubrique, Kamel.
Les deux, comme
ne vous laissez pas perturber.
Allez, alors je me lance. Pour la supposée contradiction d'aujourd'hui, nous allons parler de prédestination. Les détracteurs du Coran nous disent que dans Sourate Al-Hadid, il y a le verset 22 qui dit « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes qui ne soit enregistré dans un livre avant que nous ne l'ayons créé » en parlant de la terre. Et cela est certes facile à Allah. Ceci veut dire que tout a été écrit dans ce qu'on appelle l'Ouf al-Mahfoud, la table gardée ou la tablette, tout a été écrit avant même que la terre ne soit créée. Et nous avons aussi donc, le verset 13 de Sourate al-Isra, entre autres, qui nous dit « Et au cours de chaque homme, nous avons attaché son œuvre, et au jour de la résurrection, nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. » Ce qui signifie que toutes nos œuvres sont déjà consignées, qu'au jour de la résurrection, nous nous retrouverons face à ce que nous aurons fait, sans que rien ne puisse changer la situation. Nous sommes pratiquement dans le fatalisme. Ces versets, selon ce qu'avancent certains, sont en contradiction avec les premiers versets de Sourate Duha, la fumée, qui disent en parlant de Laylatul Qadr. Alors Laylatul Qadr, c'est un homme... Ça a deux sens, deux significations. On appelle, on peut traduire Laylat al-Qadr par la nuit de la valeur, parce que c'est une nuit qui vaut, en termes de rétribution, 1000 mois, l'équivalent de 83 années, 4 mois et quelques jours. Et on l'appelle aussi la nuit du destin. La nuit du destin, c'est ce sens qui revient dans, justement, Sourate Duha, où il est dit Hamim. Par le livre, c'est-à-dire le Coran explicite, nous l'avons fait descendre en cette nuit bénie, nous sommes en vérité celui qui avertit, durant cette nuit et décider tout ordre sage. Là, c'est donc ce qui est mis, ce qui est placé comme contradictoire par rapport aux deux versets que nous avons cités avant et qui disent que tout a été écrit avant même qu'il n'y ait création. C'est le verset 4 qui dit « durant laquelle, durant cette nuit, est décidé tout ordre sage ». Il suggère que c'est durant cette nuit que se décide la destinée des gens, alors que les autres versets stipulent que cela s'est déjà produit. En réponse donc à cela, nous dirons, concernant ce qui a été écrit dans la table gardée, donc le Mahfoud, ceci a été fait, comme l'indique bon nombre de versets, avant la création des cieux et de la terre. La tradition prophétique nous narre cela dans le détail. Bukhari rapporte que Imran ibn Husayn, un compagnon, radiyallahu anhu, a dit « Un groupe du Yémen vint voir le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, et lui dit, ô envoyé de Dieu, nous sommes venus apprendre la religion et pour savoir comment tout a commencé, en parlant de la création. Le prophète, alayhi salatu wasalam, leur dit « Dieu seul exista d'abord et rien hormis lui. Son trône était sur l'eau, il écrivit sur la table toutes choses et il créa les cieux et la terre. » Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmad, Abu Daoud, Tirmidhi, d'après Ubad ibn Samit, nous apprenons que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, a dit, la première chose que Dieu créa est le kalam, la plume. Il lui dit, écris. Et il se mit à écrire, à partir de cette heure-ci, tout ce qui allait se produire jusqu'au jour de la résurrection. Avant de poursuivre, comprenons une chose. Ce que la plume a écrit concernant nos œuvres, c'est ce que Dieu a vu de ce que nous avons fait ou de ce que nous ferons, car Allah qui est en dehors du temps et qui ne subit pas le temps comme nous le subissons, nous sommes dans cette, ce que Eddington, l'astrophysicien britannique, appelait la flèche du temps qui va inexorablement du passé vers le futur. Nous subissons le temps de cette manière. Mais Dieu, qui est hors du temps, a le pouvoir de voir l'avenir comme nous avons la faculté de voir le passé, notre passé. Ce qui a été écrit sur la tablette n'est pas un scénario auquel chacun d'entre nous devra se conformer ou devra jouer dans cette vie d'ici-bas. C'est tout simplement des séquences du temps futur en ce qui nous concerne, mais qui sont normalement au passé par rapport à Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu évoque dans le Coran des faits relatifs au jugement dernier, il le fait toujours au prétérit, c'est-à-dire au passé. Maintenant, revenons à ce fameux verset 4 de Sourate Dukhan. Quand Dieu dit « c'est durant cette nuit qu'est décidé tout ordre sage ou immuable », cela veut dire, comme le souligne bon nombre d'exégètes, c'est durant cette nuit du décret, cette nuit du destin, mais il ne peut pas dire, que les décisions sont prises de la tablette gardée pour être transmise aux anges scribes, aux anges proches, ainsi ce qui aura toute l'année, s'agit-il des termes de vie des hommes, leur part de ce monde, etc. Donc, durant cette nuit, Dieu communique à ses anges proches ce qui va se produire durant l'année en cours. Ces décisions sont immuables et sagement élaborées. Tel a été notre ordre, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, qui arrivera tel que Dieu l'a destiné, l'a décidé, l'a prédestiné et l'a révélé. Donc il n'y a pas de contradiction entre les versets. Et puis, ce que nous appelons le Ktoub, ce qui a été écrit, c'est tout simplement une faculté que Dieu a à voir, à lire l'avenir, tout comme nous avons la faculté de lire le passé. J'espère que c'est assez explicite. Si ça ne l'est pas, eh bien, nous expliquerons encore cela un peu plus demain, si vous le voulez.
Voilà, vous reviendrez avec vos tablettes demain, Kamel.
Mashallah.
D'accord, il n'y a pas de problème.
Franchement, high level avec le docteur Shekat. Mashallah, Allahumma barik.
Tiens, c'est l'heure de la sourate bien comprise, Ousmane.
Ah, il y a une heure carrément.
Ah ouais,
ah,
c'est toujours. Voilà, moi,
c'est la rigueur.
Vous savez qu'une sourate bien comprise est meilleure que le Coran récité.
C'est vrai, ouais. C'est vrai. Et pendant que on est en train de parler, il y a un passage du Coran qui me vient souvent pour indiquer la qualité des leaders envers ceux qui sont autour de lui. et c'est fait de miséricorde, de clémence, malgré les erreurs qui peuvent arriver, malgré les fautes que les compagnons ont pu faire, que les hommes peuvent faire autour de nous. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde de la part de Dieu que tu as été plein de douceur envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَضَّنِي. Si tu avais été dur, غَلِيظَ الْقَلْبِ, rude de cœur, لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Ils se seraient tous éloignés de toi. Le management par la dureté, par la colère, par la rigueur n'amène à rien du tout. D'ailleurs, le management est une bêtise sans nom. C'est d'ailleurs inspiré des nazis. Mais la manière de conduire les hommes, ça s'emprunte toujours, en tout cas de la part du prophète, de miséricorde. Et il continue en lui disant, malgré leur erreur, parce que ce passage fait suite à la catastrophe de Uhud, où on n'a pas suivi l'avis du prophète sur lui la paix, lui s'étant rangé à l'avis de la majorité. Mais malgré tout, le Coran lui dit, cette catastrophe ne t'a pas poussé effectivement à leur faire des reproches, à leur dire pourquoi vous m'avez fait ça, à être plein de rancœur. Non, le prophète était au-dessus de cela et les compagnons ont su reconnaître cela en lui. Fa'fu anhum, dit le Coran, pardonne-leur. Wastaghfir lahum, et demande pardon à Dieu pour eux. Washawirhum fil amr, et continue de les concerter, délibère avec eux quant aux décisions politiques, quant aux décisions du pouvoir. Enfin, iza azamta, si tu as pris ta décision, fatawakkal ala Allah. Fais confiance en Dieu et avance. Et ça, je crois que c'est une leçon que l'on devra enseigner à tout le monde en tant que père, en tant que mère, en tant que professeur, en tant qu'imam,
mais aussi en tant que leader, patron, et en peut-être tant que patron qui gère des salariés.
Et oui, effectivement. D'ailleurs, le salariat, pour moi, est problématique. C'est une forme d'esclavage. C'est le seul endroit, en tant que salarié, où on n'est pas libre. Il n'y a pas de citoyenneté, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut revoir cette affaire.
C'est à voir, bon, mais bon, ça se discute.
Non, ça se discute pas, mon ami. Il n'y a pas de vote dans les entreprises. Le patron décide de tout.
Le patron, il ne fait pas ce qu'il veut de toi.
Un peu quand même.
T'as une mission.
Les syndicats, ils n'ont pas remis en cause le principe du salariat.
Il y a le code du travail.
Ils ont juste aménagé.
Oui, ils l'ont aménagé.
Ils ont aménagé une forme de servitude, c'est tout. Mais
non, mais la servitude, c'est moyennant rien. Alors que un travail, c'est moyennant.
Il y a même des gens qui disaient que les esclaves étaient plus lotis.
Le prophète dit tout l'agir, il s'adresse au patron. Le prophète s'adresse au patron. Oui. Il disait attribuer aux salariés leur rétribution, leur salaire, avant même que la sueur de leur front sèche.
La rétribution est une chose, le salariat c'est autre chose. Mais revenons au propos du Coran ici.
Agir, c'est le salarié.
Bon, revenons ici au propos du Coran. Ce que je veux dire par là, c'est la douceur, les amis. La miséricorde, c'est le meilleur moyen de faire grandir les gens et d'aller triompher contre toutes les injustices.
Là, je ne te contredirai pas, là. Inch'Allah.
Bien. Et là, vous n'allez pas me contredire, Imam Abdi Ali, puisque le Ramadan, c'est le mois des cadeaux. Grâce à Maul Patron sur l'OFM, vous pouvez devenir
Maul Patron, c'est les meilleurs.
Very important auditeur, Karima. Donc, si vous voulez repartir avec une télé connectée de 32 pouces ou un robot aspirateur qui vous est offert par Maul Patron, il vous suffira de nous appeler. Et c'est peut-être vous qui serez là avant l'ADEN au 01 53 48 3000. Maul Patron, c'est désormais 4 adresses. Imam Abdi Ali, je sais qu'on vous y voit souvent chez Maul Patron. Hein.
Ah oui, donc alors c'est Osni, donc oui. Osni, ça s'écrit O-S-N-Y.
Mais ça se dit Osni.
Oui, c'est dans le Val d'Oise.
Dans le Val d'Oise, à côté de Cergy, pas loin de Cergy-Pontoise. Il y en a un autre à Buchelet, à côté de Mantes-la-Jolie. Donc c'est tout près de, pratiquement c'est le Val-Forêt, hein, c'est tout près. Un autre à côté de Toulouse, je crois.
À Aucamville.
Aucamville.
C'est à côté de Toulouse.
Voilà, c'est ça, c'est quoi le.
C'est la Haute-Garonne.
La Haute-Garonne. Voilà. C'est pas le Lot-et-Garonne ?
Non, c'est la Haute-Garonne.
La Haute-Garonne. Le Lot-et-Garonne, c'est quoi alors ?
C'est pas ça.
D'accord, c'est pas pareil. Voilà, la Haute-Garonne, donc c'est ça, département 31.
Voilà, d'accord. On sait ou on ne sait pas.
C'est de Occitanie.
Et Tourcoing.
Tourcoing dans le nord, les ch'tis là-haut.
Et puis vous pouvez télécharger aujourd'hui l'application.
C'est pas la ville de notre ministre de l'Intérieur, Tourcoing ? Si, c'est ça. Et de notre docteur. Il est où, en fait, notre docteur ?
Et de votre futur président.
Notre docteur Walid, il est où ?
Il arrive, le docteur Walid. Là, il était en train de se faire bronzer au Maroc, il arrive.
Là, il est parti dans le nord.
Refroidir
un petit peu, d'accord. C'est vrai qu'il ne fait pas très beau là-haut, dans le nord.
Non, en tout cas, il arrive. Il sera là demain ou après-demain. Bien, dans un instant, la chronique de Ousmane Timera. On rêve tous de changer le monde.
Ramadan & Co. revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co. avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
On rêve tous de changer le monde tous les soirs avec Ousmane Timéra.
Oui, que la paix soit sur vous. On rêve tous de changer le monde, comme disait le rappeur. Et surtout, le Coran nous dit « Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim » Dieu ne change pas l'état d'un peuple tant que les membres de ce peuple ne changent pas ce qu'ils ont en eux-mêmes. Et le verbe qui ici est en train de s'énoncer, de s'élever, vise le changement. Mais les idées ne sont pas faites pour être pensées, elles sont faites pour être réalisées, pour être appliquées. Mes chers amis, notre civilisation est malade. Notre époque a besoin d'un sursaut. Nous avons besoin d'une révélation. Nous avons besoin d'une élévation. Nous avons besoin d'une révolution. Cela ne peut se faire sans le rêve, sans la vision, sans un au-delà qui nous inspire. De ce fait, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas en l'au-delà, ceux qui ne croient pas en un monde au-delà de celui-ci, ne peuvent en aucun cas avoir la possibilité d'imaginer un autre monde. L'imagination est en panne parce que le monde dans lequel nous nous trouvons, celui que nous avons créé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne veut pas partir. Les systèmes que nous avons mis en place, le système de financement, l'organisation sociale, l'ordre international, fondé sur le pacte racial et le pacte impérial, est en train de s'effondrer aujourd'hui. Et nous attendons un autre système, une autre vision. Vous savez, nous avons besoin d'une civilisation qui arrive à accepter et à faire interagir, tel un chef d'orchestre, avec ses différents musiciens, les différentes cultures, les différentes religions, les différentes manières d'être, parce que l'humanité est une seule et même famille. Nous avons besoin de ce système. Nous avons besoin de cette vision. Nous avons besoin d'une vision qui fait de l'argent non pas un but que l'on adore, mais un moyen que l'on investit dans la dignité des êtres humains, parce que chaque être humain est un cadeau en soi, unique, qui manque à l'univers si ce dernier ne vient pas. Nous avons besoin de ce type de politique et de vision. Nous avons besoin, au fond, d'une vision qui nous dit que la terre entière appartient aux êtres vivants. Elle n'appartient pas à une petite oligarchie de race blanche qui, ayant un passeport, lui permet de se balader là où il veut pour, en même temps, contraindre le reste de l'humanité à être parqué dans des frontières qu'il a lui-même construites. Frontières que nous ne voyons pas, d'ailleurs, d'en haut. Frontières que nous utilisons pour nous entretuer les uns les autres, pour nous empêcher de partir, d'immigrer, de voyager, de découvrir des frontières que nous ne voyons pas d'en haut. Lorsque nous sommes tout en haut, en regardant du ciel, des frontières qui sont en train de lacérer le corps de l'humanité, mais qui ne sont que dans nos têtes, qui ne sont que dans nos têtes comme des idoles qui se nourrissent de nous. Des idoles sur l'autel desquelles nous sacrifions notre humanité, notre dignité, la dignité de tant de femmes, la dignité de tant d'hommes. Oui, il nous faut égorger, il nous faut tuer, il nous faut briser ces idoles qui aujourd'hui nous empêchent de voir notre humanité. À Gaza, au Govu, au Nord Kivu, en ce moment au Congo, en Chine avec nos amis Rohingyas, en Chine avec nos amis Ouïghours, en Birmanie avec nos amis Rohingyas, dans les usines en ce moment où se fabriquent nos portables avec la sueur des enfants. Il s'agit de penser le monde comme une unité, la famille comme étant une seule et même famille. Quelle politique, quelle vision proposons-nous à la société à partir de telle vision? Une vision qui dit qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus à présenter une carte d'identité pour prouver qui l'on est. Une vision qui dit que l'intégration et l'assimilation sont has-been, dépassées, issues d'un esprit récalcitrant de colonisateur qui pense que sans sa couleur de peau, personne n'a le droit d'exister aussi librement que lui. Non, qui pense que nous sommes tous capables de contribuer au bien-être de toute l'humanité et politique, qui se met au service d'une humanité, qui se met à investir dans l'humanité, qui se met à faire de chacun d'entre nous le membre de la seule famille que nous avons, la famille humaine. C'est de cela dont il s'agit. Il faut donc comprendre que le conflit, le changement d'ordre international que nous avons en ce moment, en Ukraine, à Gaza, à Taïwan et dans d'autres endroits, nécessite de penser une vision globale.
il faut revenir à la notion de Oumma. Oh oui, je sais que c'est un gros mot. Je sais que ceux qui sont enfermés dans la prison des frontières vont dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de Oumma? Nous avons cru que nous avions égorgé cette idée à la fin de l'Empire ottoman. Mais les empires peuvent partir, les idées restent. Il y a quelque chose qui unit une communauté de Dakar à Jakarta et qui peut-être la piste sur laquelle peut-être arrivera à maturité l'idée d'une humanité à maturité cosmique et unique. Nous avons la chance de représenter cette vision. Nous avons la chance de nous retrouver en un seul endroit, tous les ans, à la Mecque. Nous avons la chance de sentir les mêmes événements, le Ramadan. Nous avons cette vie, la réalité d'une communauté qui se vit au-delà de sa couleur de peau, au-delà de ses frontières, au-delà de sa culture, voire au-delà même des religions, puisque nous acceptons les religions qui ne sont pas forcément celles qui sont là, celle qui est la nôtre. C'est de cela qu'il s'agit de fructifier. Il s'agit de reprendre cette idée, de la développer, de lui donner des institutions, une forme d'éducation et de la présenter comme modèle à l'humanité. Il est clair que ceux qui sont sectaires, qui s'amusent à s'égorger mutuellement au nom de la virgule qui manque dans le regard qu'ils voient chez l'autre. Il est clair que ceux qui s'amusent à ne voir en nous que des choses qui nous divisent et non pas le point commun qui nous unit, ne pourront comprendre ce propos. C'est contre eux que nous sommes en combat. C'est contre eux que nous sommes en guerre. Et ces gens-là se trouvent dans tous les camps. Il s'agit d'être du côté de l'humanité qui respire contre l'Empire. Est-ce que vous êtes du bon côté? Telle est la question. Soyons du côté de l'humanité qui respire, du côté de l'orphelin, du côté des plus pauvres, des plus faibles, car c'est en cela que Dieu plante les graines de l'avenir. Onuridu anamunna ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum al-warithin. Et nous, Dieu, voulons favoriser ceux qui sont discriminés, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont les damnés de la terre, sur terre, et faire d'eux les leaders de demain, et faire d'eux les héritiers. Soyons ces héritiers.
Ousmane Timéra, vous retrouvez la chronique d'Ousmane Timéra d'ailleurs sur les réseaux sociaux de Beurre FM. Imam Abdelali, vous êtes prêt pour l'ADN de ce soir?
Oui, bien sûr, comme d'hab.
Ouais. Vous êtes très en voix aujourd'hui?
Ben, on va essayer.
Non.
On
a toujours une belle voix,
par contre, je suis obligé d'attendre le dernier moment pour savoir.
Bon, 18h57, ce sera l'ADN en direct. Il faut savoir que nous, on est pile poil à l'heure. Hein. On part à l'heure, Karima.
Oui.
Il gratte 30 secondes.
Hier, mon imam, à la maison, il était en avance sur vous un tout petit peu.
Oui, il a gratté voilà. 30 secondes.
Oui, 30 secondes. Non, pas vous. Ah, moi, oui. Je vous suis, je vous écoute. J'attends, je prends pas ma date avant de vous avoir entendu, vous. Hein.
Ah, oui,
même si mon Aden à la maison, il a démarré.
Il faut attendre l'Aden de l'imam.
J'attends, il faut attendre l'Aden de l'imam. Donc, 18h57 ce soir en direct sur Beurre FM.
Ramadan & Co. revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co. avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co. avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM. Beurre FM, Ramouvision, le Coran en arabe, en français.
A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
Et nous dîmes, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes.
فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. Et nous dîmes, descendez du paradis, ennemis les uns des autres, et pour vous il y aura une demeure sur la terre et un usufruit pour un temps. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux.
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Nous dîmes, descendez d'ici, vous tous. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui le suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traite de mensonges nos révélations. Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement.
Ya bani Israël, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi أوفي بعهدكم وإياي فارهبون.
Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Si vous tenez vos engagements vis-à-vis de moi, je tiendrai les miens, et c'est moi que vous devez redouter.
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون.
Et croyez à ce que j'ai fait descendre en confirmation de ce qui était déjà avec vous. Et ne soyez pas les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas mes révélations contre un vil prix. Et c'est moi que vous devez craindre. Et ne mêlez pas le faux à la vérité, ne cachez pas sciemment la vérité.
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
Et accomplissez la salate, et acquittez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent.
أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
Commanderez-vous aux gens de faire le bien, et vous oubliez vous-même de le faire alors que vous récitez le livre? Êtes-vous donc dépourvu de raison?
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا
لكبيرة إلا على
الخاشعين. Et chercher secours dans l'endurance et la salate. Certes, la salate est une lourde obligation, sauf pour les humbles.
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون.
Qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur après leur résurrection et retourner à lui seul.
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé. Rappelez-vous que je vous ai préféré à tous les peuples de l'époque.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
Et redoutez le jour où nulle âme ne suffira en quoi que ce soit à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession, et où on ne recevra d'elle aucune compensation, et ils ne seront point secourus.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ.
Et rappelez-vous, lorsque nous vous avons délivré des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et épargnant vos femmes, c'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur.
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
Et rappelez-vous, lorsque nous avons fendu la mer pour vous donner passage, nous vous avons délivré et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
Et rappelez-vous, lorsque nous donnâmes rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis en son absence, vous avez pris le veau pour idole, alors que vous étiez injuste à l'égard de vous-même en adorant autre qu'Allah.
Retrouvez tous les programmes du Ramadan en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.
Beurrefm.
Et je vous rappelle que si vous voulez être le very important auditeur, terminer la soirée avec nous et repartir avec un cadeau offert par Moule Patron, une télé connectée de 32 pouces ou un aspirateur robot, Imam Abdelali. C'est maintenant que vous appelez le 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Ramadan & Co revient dans un instant.
Suivez Ramadan & Co avec le Secours Islamique France.
17h-20h, Ramadan & Co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun sur Beurre FM.
Et avec nous sur ce plateau, Karima Chadibaou qui est là,
oui.
Ousmane Tibera.
Je suis là, nous sommes là.
Est-ce que vous avez passé une bonne journée de jeûne, Karima?
Oui, une bonne journée de jeûne. Là, on rentre dans les... tout à l'heure, j'écoutais l'imam, il disait que ça y est, on a pris l'habitude. Et Philippe, vous disiez, non, mais attendez, il ne faut pas que ça s'installe et que ce soit trop l'habitude.
La routine.
La routine, exactement.
En routine.
Et ce n'est pas encore, parce que là, notre corps n'est pas encore complètement habitué. C'est que le quatrième jour et nos émotions, que dire au sujet de nos émotions quand on se prive justement de nourriture, de boire, de beaucoup de choses, eh bien, on peut être parfois sujet à de l'irritabilité, à de l'agacement, à de l'impatience. Et justement, bah, l'école du jeûne, c'est l'école de la patience, c'est l'école de la gestion émotionnelle, je l'appelle comme ça. Et donc, de pouvoir écouter toutes ces émotions et de leur laisser de la place pour les écouter, pour qu'elles nous donnent des informations sur ce qui se passe en nous, pour ensuite créer le chemin et les laisser se libérer.
Alors, Karima, c'est vous qui nous donnez un numéro entre 1 et 6 ce soir.
1 et 6, 4.
Le 4. Alors, qui est sur la ligne numéro 4? Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, c'est pour le tirage au sort.
Ah oui, quel est votre prénom?
Mohamed Abin El Jouari.
Ah, c'est un enfant.
Oui.
Ah, j'ai bien tiré.
Comment il a dit le prénom?
Mohamed Abin El Jouari, mon famille.
Ah oui, non, juste Mohamed Amin Saïra. Bon. Le prénom Saïra.
Bienvenue, Mohamed Amin. Mohamed
Amin. Tu nous appelles d'où?
Le nom le plus répandu en France pour l'année 2023.
Non, le nom composé.
J'habite à Nemours.
À Nemours?
Nemours, oui.
D'accord. Bien. Qui est avec toi, Mohamed Amin, ce soir?
Mes parents, ma mère et mon frère.
D'accord.
Ma sœur.
Tu es jeune, Mohamed Amin?
Oui, j'ai 10 ans.
10 ans, mashallah. C'est bien. C'est pas trop dur, ça va? Ah bah oui.
Non, ça va.
Ça va, bravo.
Inch'Allah.
Bravo.
Bon, est-ce qu'il y a des personnes à qui tu veux passer un message? Profites-en ce soir, profite d'être à l'antenne.
Oui, c'est pour passer un message à ma mamie au Maroc et à mes parents.
Bon, elle s'appelle comment ta mamie?
Fadila.
D'accord. Bon, alors, est-ce que tu sais déjà ce que tu vas choisir? Tu es plutôt de la team télé ou de la team aspirateur?
Aspirateur.
Ça sera l'aspirateur.
L'aspirateur, cette année, à la côte. Hein.
Oui.
Bon, elle a préparé quoi, maman, à manger, tu sais, Mohamed Amin?
Une question, l'aspirateur, c'est... ma mère, elle a préparé... Haïlila.
Ouais.
Et avec la tajine. De kefta.
Tajine de kefta. C'est marocain.
Oui.
Oui.
Ftour marocain.
Ftour marocain.
Et tu sais ce que je te propose, c'est que tu vas rester en ligne pour la question sur l'aspirateur. On va répondre à toutes tes questions sur l'aspirateur, tu sais, hors antenne. D'accord? Est-ce que ça te va comme ça, Mohamed Amine?
Oui.
Bon, alors reste en ligne, ne raccroche pas.
Couscous Dari vous souhaite un bon ramadan. Sksodari, Meirtadari. Vivez un ramadan solidaire avec Muslim Hands, 25 ans d'humanitaire à travers le monde.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تقبل الله صيامنا وصلاتنا وسائر أعمالنا بمزيد من الأجر والثواب. Toute l'équipe de Beurre FM vous souhaite une bonne rupture de Ramadan. Sahaf Tourkoum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Couscous Dari, ketmenelkoum shahia tayyiba. Skso Dari, maikhta Dari. Bon appétit avec Muslim Hands. Muslim Hands, votre partenaire humanitaire.
كل طاقم بر افام يتمنى لكم شهية طيبة صحاف طولكم
Retrouvez Ramadan Enco tous les jours de 17h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.
Ramadan Enco vous a été présenté par le Secours Islamique France. Vos dons changent des vies. Agissez aux côtés du Secours Islamique France. Ramadan, votre générosité fait toute la différence.